La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans les pas d'un grand auteur et jusqu'à jeudi nous partons à la redécouverte de l'industrieux Jules Verne. On a peut-être un peu de mal à l'imaginer mais Jules Verne est né en 1828. À une époque où on se déplaçait exclusivement grâce à la force animale et où on se chauffait au bois. Une époque durant laquelle l'automobile était encore un rêve bien lointain, une époque d'avant la révolution industrielle, bien plus proche en fait de Napoléon et de la révolution française. On l'imagine avec peine car Jules Verne c'est tellement la machine, la technique, les boulons, les pistons et les sous-marins qu'il nous paraît presque plus proche d'un Cousteau que d'un Balzac. Analogie qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un contresens, mais qui réduit tout de même un peu Jules Verne, cet homme entre deux époques dont nous allons tâcher d'éclairer jusqu'à jeudi les multiples facettes. C'est donc un romancier qui a touché tous les genres, nous le verrons, roman policier, roman d'aventure, science-fiction bien sûr, fantastique, gore et aussi roman historique. Des mauvais genres, nous en parlerons jeudi avec le producteur bien connu des auditeurs de France Culture et auteur d'un dictionnaire, Jules Verne, François Angelier bien entendu. La veille, c'est-à-dire mercredi, nous aurons questionné le parcours de l'écrivain et parlé de ses thèmes de prédilection ainsi que de son écriture, tout cela avec l'universitaire Daniel Compère. Demain, une émission sur les voyages de Jules Verne à l'occasion de la parution en Pléiade du Voyage au centre de la Terre et de la Terre à la Lune. C'est l'éditeur de cet ouvrage que je recevrai en duplex de Caen, Jean-Luc Steinmetz. Et aujourd'hui, comme chaque lundi, une émission à dominante biographique avec Agnès Marcetopol, directrice de l'un des musées Jules Verne, celui qui se trouve à égale distance entre Los Angeles et Vladivostok, c'est-à-dire bien entendu à Nantes, Nantes dont elle est également conservatrice de la bibliothèque municipale. Tout va bien, merci d'être avec nous à bord de la compagnie des auteurs.
C'est lui, Jules Verne, et de beaucoup, le plus grand génie littéraire de tous les siècles. Il restera quand tous les autres auteurs de notre époque seront oubliés depuis longtemps. C'est d'ailleurs aussi monstrueux de le faire lire à des enfants que de leur faire apprendre les fables de la fontaine si profonde que déjà bien peu d'adultes sont aptes à les apprécier. Lettre de Raymond Roussel à Eugène Léris.
Bonjour Agnès Marcetopol.
Bonjour.
C'est un crime de réserver Jules Verne aux enfants ?
Ah, certainement, oui. Et je pense que la référence à La Fontaine est excellente.
Pour quelle raison ?
Parce que je pense que Jules Verne était un grand moraliste et qu'effectivement, on peut le lire à tous les âges et y trouver énormément de choses et redécouvrir à chaque instant.
Est-ce qu'il aurait une morale qui reviendrait dans toute son œuvre ?
Alors, il n'y a pas qu'une morale, mais il a un regard moral sur ce qui l'entoure. Je pense qu'effectivement, c'est fondamentalement un moraliste.
Mais on ne peut pas dire de quelle morale il s'agirait.
Alors, s'il en a une, je dirais qu'elle pourrait se qualifier peut-être par un grand scepticisme, ce qui lui permet d'échapper à toute idéologie et d'avoir toujours un regard neuf pour nous aider à considérer le monde qui l'entourait. Sans aucun a priori et sans aucun préjugé. Or, comme ce monde était une sorte de matrice de celui dans lequel on vit aujourd'hui, puisque Jules Verne, il écrit au moment où le monde devient ce village mondial et global, on a énormément d'enseignements à en tirer aujourd'hui.
Il écrit sur notre monde, à nous.
Oui, il écrit sur le monde qui allait devenir le nôtre. Puisqu'il écrit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment à la fois où le progrès technologique va changer le rapport au monde, et puis aussi où on va achever de le découvrir, dans un premier temps de l'explorer, Et puis après, où vont se mettre en place un certain nombre de rapports qu'on peut encore qualifier de Nord-Sud et qui nous interrogent encore aujourd'hui. Et Jules Verne, il a été un spectateur avisé et averti de ce monde-là.
Mais cela, Agnès Marsétopol, on s'en rend compte depuis assez peu de temps. La recherche universitaire, qui aujourd'hui est relativement active, ne l'était pas jusqu'à il y a peu d'années.
Absolument, il y a eu un très très long purgatoire autour de Jules Verne, sorte de purgatoire un peu natif, puisqu'il a été d'emblée rangé dans la catégorie de la littérature pour la jeunesse, que certainement il a été obligé d'accepter un carcan éditorial qui a fait que son message est quelquefois un peu brouillé ou un peu dissimulé, ce qui certainement d'ailleurs en fait aujourd'hui une des qualités, puisqu'on lit entre les lignes avec encore plus de plaisir, et puis que de toute façon, on ne se donnait pas la peine de le lire. Et quand on le lisait, c'était souvent dans des éditions tronquées, quelquefois lorsque c'était hors de France, dans des éditions mal traduites et reformatées pour la jeunesse. Donc il a fallu effectivement attendre le milieu du XXe siècle, et puis des écrivains comme Butor, comme Gracq, ensuite Michel Serres, pour que le regard change et que progressivement on le considère avec le sérieux qu'il méritait.
Et aujourd'hui à la bibliothèque de Nantes, est-ce qu'il est très emprunté ?
Alors je ne pense pas qu'il soit si emprunté que cela. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la question, parce que Jules Verne, il a entre autres caractéristiques de pouvoir être appréhendé de mille façons, puisque quelqu'un qui ne sera pas un lecteur peut connaître Jules Verne à travers le cinéma. Il y a même énormément aujourd'hui de traductions artistiques de l'œuvre de Jules Verne, donc il est en quelque sorte entré dans l'inconscient collectif. Et peut-être même dans la mémoire universelle.
On va parler de sa biographie puisque c'est l'objet de notre émission d'aujourd'hui, mais vous m'avez dit quand même cette chose un peu étrange juste avant qu'on commence l'émission. Vous avez dit, si je ne suis pas stressé, c'est à cause de Jules Verne.
Alors je pense qu'il y a beaucoup de leçons de vie dans Jules Verne, et il y en a en particulier une qui à moi correspond tout à fait, c'est l'impassibilité de Phileas Fogg, que je considère comme un sommet de l'œuvre.
Donc quoi qu'il arrive, aucun problème,
on va trouver
une solution.
Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème mais des solutions, et surtout, on doit poursuivre son but.
Allez, entrons dans la biographie de cet homme qui est né le 8 février 1828.
Fils d'un père à demi parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds bâtiments à voile de la marine marchande. En imagination, je grimpais dans leur haubans, je me hissais à leur une, je me cramponnais à la pomme de leur mât. Quel désir j'avais de franchir la planche tremblotante qui les rattachait au quai et de mettre le pied sur leur pont. Me voilà sur le pont. Ma main saisit une drisse et la fait glisser dans sa poulie. Quelle joie! Les panneaux de la cale sont ouverts. Je me penche sur cet abîme. Les odeurs fortes qui s'en dégagent me montent à la tête. Ces odeurs, où l'âcre émanation du goudron se mélange au parfum des épices.
La grande ville de commerce dont parle Jules Verne, c'est bien évidemment votre ville. Agnès Marsétopol, c'est Nantes, une ville tournée vers l'ailleurs.
Absolument, puisque aujourd'hui, comme hier, c'était un grand port de commerce. Et Jules Verne y a puisé son amour pour les grands voyages.
Ensuite, il ira vivre à Amiens, mais il se considérait avant tout, peut-être pas comme un Nantais, mais en tout cas comme un Breton.
Alors déjà, il se revendiquait comme breton, ça c'est tout à fait certain. Et puis la vie de Jules Verne, c'est un petit peu moins simple que ce que l'on pense, puisqu'il vit à Nantes pendant les 20 premières années. Ensuite, il va vivre 25 ans à Paris,
On oublie effectivement un peu cette parenthèse
alors
qui n'en est pas une.
Ça n'en est pas une parce que c'est là qu'il va affirmer sa vocation littéraire et c'est là qu'il va réussir à percer et c'est là qu'il va publier les grands premiers romans qui le lancent. Et puis effectivement, à partir de 1872, il s'établit à Amiens. Mais ce qu'il faut savoir et rappeler, c'est que Nantes, forcément, a été fondateur pour Jules Verne, j'allais dire comme tout le monde. Les premières impressions sont sans doute les plus fortes. Il a lui-même témoigné que c'était parce qu'il était né à Nantes qu'il était devenu le romancier des voyages extraordinaires. Il y a certainement puisé ce sentiment assez baudelairien du voyage qui va être pour lui essentiel. Et puis, on peut rappeler aussi que Nantes, il fréquente cette ville régulièrement jusqu'en 1887.
Et pourtant, il appelle cette ville, d'une manière un petit peu ironique, la sixième ville de France. Alors, je voudrais que vous lisiez
quelques extraits de ce
poème
sonnet
que vous avez sous les yeux et qui est donc un sonnet dédié à Nantes par Jules Verne.
Et pour lequel on donnera quelques explications aussi.
Bien entendu.
Un quartier neuf et présentable, entre bon nombre de hideux, des sceaux bâtissant sur le sable, en affaires peu scrupuleux. Le sexe, en général fort laid, un clergé nul, un sceau préfet, pas de fontaine, c'est là Nantes.
Alors, les explications.
Alors, il écrit ça quand il a à peu près 20 ans. Au moment, effectivement, où il quitte Nantes pour Paris. Et à ce moment-là, en fait, il a eu énormément de déboires sentimentaux qui, pour lui, ont été très, très importants. Donc, il est en révolte contre cette ville dont il a l'impression qu'elle ne le reconnaît pas à sa juste valeur et surtout, dont il a l'impression que les jeunes filles s'empressent à chaque fois qu'il s'intéresse à elles d'en épouser un autre. Et pour lui, c'est quelque chose de terrible.
Il y a deux jeunes filles en particulier. Sa cousine.
Oui, et surtout Herminie. On peut penser que Caroline, ça a été une amourette d'enfance, assez vite oubliée. Mais Herminie Arnaud-Grostière, oui, ça a été quelque chose d'absolument terrible. Ça a certainement laissé chez Jules Verne des blessures qui seront irrémédiables. Et il restera ce cœur meurtri.
Et dans l'œuvre, on le retrouve,
oui,
ce traumatisme affectif.
On le retrouve assez souvent. Quand on connaît la biographie de Jules Verne, on lit très souvent entre les lignes ce qui a quelquefois été qualifié de misogynie et qui est certainement davantage une misogamie, en tout cas un fort problème avec le mariage.
Voilà, misogamie, c'est effectivement quand on n'aime pas l'institution du mariage.
Oui, ou quand on n'aime pas la réalité
quand
du mariage.
Quand on n'aime pas sa femme.
Voilà, et effectivement, cette pauvre Honorine, épousée...
Sur le tard.
Oui, en tout cas pour faire une fin... Épousé par convenance, ne s'est pas révélé être l'épouse qu'il lui aurait fallu.
Alors, puisqu'on parle des femmes, poursuivons un petit peu sur ce thème. Il se marie le 10 janvier 1857 avec cette jeune veuve qui est mère de deux filles. Et contrairement aux apparences, c'est peut-être une aubaine qu'elle soit déjà mère de deux filles.
Peut-être, oui, parce qu'il a eu par ailleurs, avec la paternité, des relations assez compliquées. Mais ça a surtout été, pour commencer, un drame pour Jules et pour Honorine, puisque au départ, tout semblait se passer au mieux. Ça n'est pas du tout un mariage arrangé. Ils se rencontrent, ils se conviennent et ils pensent de part et d'autre que ce sera bien. Pour Jules Verne, c'est véritablement l'occasion de faire une fin et de s'établir à un moment de sa vie où il est extrêmement fragilisé, où il a l'impression que ses ambitions littéraires n'aboutiront pas. Donc ce que Honorine va lui apporter, c'est la stabilité. Et d'autre part, il faut bien le dire aussi, c'est l'opportunité d'acquérir une charge d'agent de change. Et tout ça, finalement, ne sera pas suivi des effets escomptés.
Et au fur et à mesure, ils vont toujours vivre ensemble, mais
toujours
dans des maisons séparées, quand ce sera possible.
Certainement pendant un certain nombre d'années. On peut penser que dans leur grand âge, ils se sont un peu retrouvés et l'apaisement est venu une fois que les orages étaient passés aussi avec Michel, puisqu'ils ont eu à vivre ensemble cette épreuve avec leur fils. Oui.
Alors là, on est allé très loin dans la biographie. Revenons peut-être aux études. Ce n'est pas un scientifique
pas du tout.
De par ses études, Jules Verne, comme on pourrait s'y attendre?
Non, en fait, il a fait des études de droit par tradition familiale, puisque son père était avoué, et que Jules, en tant que fils aîné, était destiné à reprendre la charge de son père. Donc, en fait, la science, ou en tout cas la technique, chez Jules Verne, c'est plutôt un fait de société. Et puis, il va se trouver que son association avec Hetzel va l'amener à s'intéresser à des sujets techniques, mais en fait, toujours sous l'angle du progrès technique et technologique qui permet, en fait, le voyage et puis l'exploration et la découverte.
Donc, le droit ne va pas l'intéresser du tout?
Ah non, le droit, il va être un élève tout à fait honorable, mais pas plus que ça.
Il dit dans une lettre à son père qu'il songe à devenir un poète couronné ou un romancier émérite.
Absolument, car il écrivait aussi à son père que la seule chose qui l'intéressait, c'était la littérature. Il va donc mener à terme cette vocation littéraire avec la bienveillance de ses parents, qui auront à la fois la patience et puis sans doute aussi suffisamment d'affection pour l'aider à aller jusqu'au bout. Parce que la bohème littéraire, pour Jules Verne, elle a duré 15 bonnes années. Donc il fallait quand même que de part et d'autre, il y ait du soutien.
15 années d'insuccès ?
15 années de tout petit succès.
Et qu'il vit comment ?
Qu'il vit plus ou moins bien en fonction des périodes. Au début, il le vit avec patience. Et puis, le temps passant, il a l'impression qu'il n'y arrivera pas. Mais à cette époque-là, en fait, il essaie de percer au théâtre. Et là, ça ne marche pas. Il faudra attendre le début des années 60, la rencontre avec Hetzel, pour qu'il trouve sa voie via le roman.
Et il dit qu'il souhaite être un poète couronné. Le fait qu'il précise que ce soit un poète à couronne qu'il désire oui. être, ça n'est pas tout à fait anodin, Agnès Marcet-Topol.
Je pense que c'est une figure de style. Voilà, je pense qu'il veut expliquer à son père que la vocation est tellement forte que forcément il en aura les lauriers.
Ah, vous ne pensez pas que c'est parce qu'il recherche la célébrité que ça fait partie de son projet ?
Alors, il recherche la célébrité parce que la célébrité est une reconnaissance. Mais je ne pense pas qu'il recherche les honneurs.
Alors ça s'appelle tout simplement, les paroles sont de Jules Verne et la musique d'Aristide Ignare, parce que pendant cette période dont vous parlez, Agnès Marcet-Topol, avant la gloire, il fréquente effectivement un certain nombre de personnes, dont des musiciens. Il y a ce fameux Ignare, enfin fameux pas tellement finalement, et il y a Léo Delibes aussi. Donc il y a tout un milieu quand même artistique qu'on n'imagine pas forcément graviter autour de Jules Verne, qu'on imagine un peu solitaire.
Oui, mais effectivement, entre 1848 et puis le début des années 1860, il fait partie de cette bohème littéraire et avec eux, il recherche sa voie.
Il n'est pas très bohème, lui, il est plutôt rigide.
Non, pas du tout, il était très bohème. Surtout à cet âge-là, absolument. Oui, oui. Après.
Ça veut dire quoi, très bohème? Qu'est-ce qu'on fait alors quand on est Jules Verne à cette époque-là?
On vit comme vivaient les jeunes gens de la bohème parisienne à cette époque-là. Dans toutes les dimensions, on est mal logé, on est secrétaire du théâtre lyrique, on fréquente un club qui s'appelle les 11 sans femmes parce qu'on a un esprit parce qu'on a un esprit potache.
C'est un club. C'est pas les 11 sans, c'est pas un chiffre,
c'est 11
qui n'ont pas de femmes.
Qui n'ont pas de femmes. Eh bien, ce sont des jeunes gens qui, pour des raisons diverses et variées, n'avaient pas de femme, soit par choix, soit par nécessité, et qui trouvaient que c'était un point assez important pour se réunir et pour essayer d'en rire.
Et on est heureux à ce moment-là ?
Non, je ne pense pas qu'on soit toujours très heureux, non, on cherche sa voie.
En tout cas, s'il y a un bonheur possible, ce n'est pas dans le mariage qu'il faut aller le chercher. On l'a vu, c'est peut-être comme Michel Tournier le pense dans un entretien donné en 2000 à Gilles Lapouge, dans les profondeurs qu'il faut aller le chercher.
Il y avait chez Jules Verne l'obsession du bonheur enfoui. Pour être heureux, vivons enfoui. Alors, enfoui sous la terre, dans l'exploration du centre de la Terre, ou dans les Indes noires, ou alors au fond de l'eau, dans 20 milieux sous les mers. Là, il n'y a plus de tempête.
Ou alors complètement au ciel.
Voilà. Alors, dans les Indes noires, il se passe une chose absolument fabuleuse, d'un romantisme délirant. Il y a une jeune fille qui est née au fond, et qui est heureuse au fond. Et il y a un jeune homme qui vient en visite, qui la découvre, qui en tombe amoureux, qui la ramène à la surface, avec des lunettes noires, parce que sinon elle aurait souffert de la lumière. Il décide de se marier, et il lui dit, voilà, on va choisir une maison. Elle dit, pas du tout, on descend, car elle ne conçoit pas de vie ailleurs qu'au fond. C'est absolument fabuleux. C'est le Orphée Eurydice à l'envers. C'est elle qui convainc le jeune homme de vivre au fond. C'est un paradoxe fou.
Alors le bonheur pour Jules Verne, c'est forcément enfoui, Agnès Marcetto-Paul.
En tout cas, c'est loin des agitations du monde.
Un peu comme Nautilus pendant la tempête.
Un peu comme le Nautilus, c'est une des images.
Mais en fait, le
bonheur pour Jules Verne, c'est l'écriture, de toute façon.
À laquelle il se consacre totalement ?
Totalement, absolument, mais depuis toujours. Voilà, depuis l'enfance, il dit bien, les vers que je griffonnais étaient l'une des principales occupations de ma jeunesse. Quand il est jeune, il revendique sa vocation littéraire et il n'abandonne jamais. Et à partir du moment où il a trouvé le filon qui lui permet d'être un écrivain, en tout cas un auteur reconnu, il ne fait que ça. Toute la vie s'organise autour de l'écriture et les seules exceptions, ce sont les voyages.
Alors le filon, il va bientôt le trouver, on y arrive, mais avant cela, le 3 août 1861, naît son fils Michel, on l'a dit, qui restera son fils unique. Et comme par hasard, quand Michel naît, lui, il n'est pas là.
Non, il est en voyage précisément. Voilà. Le mariage avec Honorine avait été plutôt expédié et la paternité va être esquivée. Et c'est l'origine d'un des drames de leur vie à tous les trois.
Pourtant, Michel a une importance.
Ah ben Michel a une importance essentielle, d'abord parce que Michel ne s'est jamais laissé faire, donc il n'a pas laissé son père l'écarter, et il a tout fait pour embêter son père, et il y a très très bien réussi. Et puis, il a fini par, à se substituer à son père en terminant certains des romans. Mais avant même l'achèvement de l'œuvre, il y avait eu écriture à quatre mains qui a permis aux deux hommes de se retrouver peu ou prou.
Donc ils deviennent collaborateurs.
Oui, en tout cas il y a du travail en commun.
Et puis c'est la fameuse rencontre avec un éditeur auquel on va toujours l'identifier, son nom, Pierre-Jules Hetzel.
Les critiques les plus autorisées ont salué dans M. Jules Verne un écrivain d'un tempérament exceptionnel, auquel, dès ses débuts, il n'était que juste d'assigner une place à part dans les lettres françaises. Conteur plein d'imagination et de feu, écrivain original et pur, esprit vif et prompt, égal au plus habile dans l'art de nouer et de dénouer les drames inattendus qui donnent un si puissant intérêt à ses hardies conceptions, et, à côté de cela, profondément instruit, il a créé un genre nouveau. Ce qu'on promet si souvent, ce qu'on donne si rarement, l'instruction qui amuse, l'amusement qui instruit, M. Verne le prodigue sans compter dans chacune des pages de ses émouvants récits.
Ça, c'est une lettre de Hetzel qui sera pour Jules Verne une sorte de frère siamois.
Oh non, c'est plutôt un père sublime. Voilà, en fait, il va permettre à Jules Verne d'exister. Il est arrivé que Jules Verne écrivant une lettre à Hetzel, signe votre Jules Verne, celui que vous avez inventé. Donc c'est tout un programme. Voilà. Sans Hetzel, aujourd'hui, personne ne parlerait de Jules Verne. C'est la rencontre avec Hetzel qui permet à Jules Verne de trouver la voie qui va lui permettre d'exprimer sa vocation littéraire en acceptant le carcan éditorial et idéologique que lui impose Hetzel. Mais sans ce carcan, de toute façon, il n'aurait pas trouvé à s'exprimer.
Et qu'est-ce que c'est ce carcan ?
Le carcan, c'est tout simplement celui de la bibliothèque d'éducation et de récréation, c'est-à-dire cette fameuse instruction qui amuse et cet amusement qui instruit. Cela oblige Jules Verne à suivre les principales lignes du cahier des charges, à s'adresser aux adolescents et à leurs familles, à ne jamais déroger de ce que doit être la convenance morale, ce qui explique aussi que l'œuvre de Jules Verne ait été assimilée à une littérature pour la jeunesse.
Mais vous qui connaissez bien l'œuvre avant Hetzel et après Hetzel, est-ce que vous voyez une énorme différence ?
Alors, de toute façon, l'œuvre avant Hetzel, c'est quand même essentiellement du théâtre et quelques nouvelles. En revanche, on connaît les interventions de Hetzel, dont certaines sont loin d'être anodines. Donc effectivement, on peut savoir que certaines influences sont dues à Hetzel. Jules Verne, en fait, plus il avance en âge et en maturité, plus il est à même de ruser avec Hetzel. Et puis d'autre part, Hetzel meurt en 1886 et Jules Verne va écrire encore 20 ans après. Mais bien sûr, il y a des tas d'exemples, des contraintes qui ont été imposées par Hetzel, et il y a même des textes qui ont connu deux rédactions, avant et après.
Et il y a aussi des romans qui sont refusés par Hetzel, comme par exemple Paris au XXe siècle.
Oui, Paris au XXe siècle est refusé. Je ne suis pas sûre qu'Hetzel ait eu tort. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, ce n'est pas le roman le plus réussi. C'est là qu'on se dit que la contrainte hetzelienne, elle était productive pour Jules Verne. Parce que très souvent, les contraintes imposées par Hetzel obligeaient Jules Verne à revoir sa copie, mais aussi à développer des stratégies. Alors le meilleur exemple, c'est la façon dont la contrainte imposée par Hetzel a fait mûrir le personnage du capitaine Nemo. Si Hetzel n'avait pas été là, on aurait un personnage beaucoup moins fort.
Donc c'est un vrai éditeur,
relation. C'est un vrai éditeur, tout à fait.
Et alors quand même, ce Paris au XXe siècle, on peut en parler un tout petit peu, parce que même si ce n'est peut-être pas le meilleur livre de Jules Verne, sans doute pas, on y apprend quand même, on y ressent quand même une forme de pessimisme.
Absolument, c'est-à-dire que grâce à Paris au XXe siècle, on sait que le pessimisme, en fait, il est d'origine chez Jules Verne. Et que pendant assez longtemps, il a été justement contraint par Hetzel. Parce que pendant longtemps, on a dit que le pessimisme se développait à la fin de la vie de Jules Verne. C'est inexact. Il a toujours été assez profondément pessimiste et surtout, il a toujours été extrêmement sceptique par rapport au progrès.
Et donc c'est un récit, un roman d'anticipation où le profit est la motivation de tout, où la langue anglaise supplante la langue française et où des machines se chargent d'arrêter des criminels et aussi de prononcer leurs sentences.
Voilà, mais on voit que Jules Verne a véritablement fait œuvre d'anticipation et pas forcément là où on pense.
Il n'avait pas confiance en l'humanité ?
Ah, je pense qu'il avait confiance en l'humanité, mais il se méfiait des méfaits d'un progrès mal maîtrisé.
Tout de même, il a dû souffrir de cette relation avec Hetzel, qui modifiait ses titres, qui parfois lui faisait réécrire des pans entiers de ses romans.
Il a dû en souffrir, mais moi je pense que le rapport a été dialectique et qu'il y a plus de profits que d'inconvénients.
Et
voilà,
après
ceci étant une opinion personnelle et pas forcément partagée par tous. Au moment de la mort de Hetzel, non, il l'a vécu comme un grand deuil. Et je ne pense pas que la relation ensuite avec Louis-Jules Hetzel, qui est le fils de l'éditeur, ait été de même qualité.
On va poursuivre cette conversation avec vous dans quelques minutes, Agnès Marsé-Topol, mais tout de suite sur France Culture, il est 15h30. Et 15h30, vous le savez, c'est le moment de retrouver notre séquence en compagnie des revues. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Valérie Toragnan de la revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie.
Bonjour Mathieu.
Alors que trouve-t-on en ce moment au sommaire de la revue des Deux Mondes ?
Alors Shakespeare, car si le monde entier célèbre les 400 ans de la mort du célèbre poète dramaturge, c'est que sa puissance continue d'inspirer, de modeler, d'influencer toute la création contemporaine. Et vous avez vu que même le prince Charles a surpris le public en montant sur la scène du Royal Shakespeare Theatre samedi dernier, lors d'un spectacle consacré à la manière de réciter la célèbre tirade de Hamlet, « To be or not to be ».
Alors c'est un bon acteur, le prince Charles ?
Écoutez, il n'y a pas eu trop de commentaires, j'ai cherché dans la presse anglaise, tout le monde a été très respectueux, il faut dire que c'était court. Alors même Barack Obama en visite à Londres s'est aussi invité à une représentation de Hamlet, à croire que la question hante tous les grands de ce monde, être ou ne pas être à la hauteur de son destin. Alors oui, retournons à Shakespeare, car s'il est pour beaucoup le plus grand génie de tous les temps, il est aussi le génie de notre époque. Jamais dans notre monde, dans ces cataclysmes planétaires, dans ces débordements barbares, ces errements, ces questionnements, ces vertiges identitaires, sa poétisation de l'hubris politique n'a été aussi shakespearien. Ce n'est pas seulement nous qui adaptons Shakespeare, c'est notre monde qui fait de nous des shakespeariens, comme le précise Jean-Pierre Nogrette dans la Revue des Deux Mondes.
Alors vous dites dans la Revue des Deux Mondes que c'est à partir des spectacles de référence de Shakespeare que se dégage l'ébauche des temps présents.
Oui, le théâtre, nous dit le critique dramatique Georges Bagnu, voilà le bistouri que Shakespeare propose pour cette expertise anatomique de notre temps que lui seul opère sans concession ni dogmatisme. Dans les anciens pays de l'Est, où sévissait la censure, Shakespeare a confirmé sa contemporanéité et suscité de Bucarest à Varsovie de véritables émois politiques. Chaque époque modèle son Shakespeare, elle s'en inspire et grâce à ce révélateur affirme son identité. Le metteur en scène Jerome Hankins nous livre dans la Revue des Deux Mondes son passionnant journal de bord de la tempête. Il s'interroge sur la façon de montrer en 2016 une pièce dont le thème essentiel est celui du naufrage. Il écrit « Je regarde un reportage sur Arte. Mohamed, jeune Syrien de 22 ans, est arrivé à Malte en bateau. Il dort dans les parcs après avoir été enfermé dans un centre de tri. Il déclare « Ici, personne ne m'aime, alors je parle au mur, au chat et à la mer. » On croirait entendre Caliban, enfant abandonné sur l'île avant l'arrivée de Prospero et Miranda.
L'époque est donc shakespearienne, Valérie, et peut-être jusque dans les séries télévisées, mais lesquelles ?
Alors voilà, le pouvoir d'ensemencement de Shakespeare dans nos représentations est frappant dans les séries télévisées comme Lost ou House of Cards. Dans Lost, le temps semble réversible, nous explique Sarah Hatchwell, professeure de littérature et de cinéma anglophone. Il y a toujours une possibilité de se racheter, de prendre un nouveau départ. La vie réelle et la fiction, non seulement sont toutes deux évanescentes, mais elles se hantent et se construisent mutuellement. Dans la série House of Cards, on multiplie les allusions à Macbeth, écrit encore Jean-Pierre Nogrette. Frank Underwood, joué par Kevin Spacey, élu démocrate à la Chambre des représentants, devenu vice-président des États-Unis, puis président après avoir forcé son supérieur à la démission, n'hésite pas à commettre lui-même des meurtres, se servant des uns et des autres pour assouvir son ambition à l'aide de sa femme, la belle et intrigante Claire, jouée par Robin Wright. L'érotisme qui unit le couple, poursuit-il, repose sur une jouissance sadique très shakespearienne, faire le mal pour arriver. Il semble illustrer en tout cas ce mécanisme infernal repéré par Freud qui analyse les Macbeth comme ceux qui échouent du fait du succès. Soif démesurée de pouvoir, cynisme, couple infernaux qui s'unissent pour mieux s'autodétruire. Cette version américaine de Macbeth prouve que c'est bien de notre époque dont il s'agit.
Est-ce que les Français ont toujours aimé Shakespeare ?
Alors certainement pas. C'est ce que nous rappelle l'historien Robert Holmes, qui est professeur d'histoire de France à l'université de Cambridge. Voltaire disait « Il avait un génie plein de force et de fécondité, sans la moindre étincelle de bon goût et sans la moindre connaissance des règles, d'où ces farces monstrueuses qu'on appelle tragédies. » Et c'est Victor Hugo, brillant et batailleur, jeune premier du romantisme littéraire, qui jouera le rôle d'avocat de Shakespeare, le présentant comme la sommité poétique des temps modernes, ce dieu du théâtre.
Et enfin Valérie, pourquoi est-ce qu'il existe tant de fous dans le théâtre de Shakespeare ?
C'est la question que se pose l'académicien Michael Edwards, professeur honoraire au Collège Ophélie, Lear, Lady Macbeth, Hamlet, ils sombrent tous dans la folie. Saisirait-elle mieux les limites malheureuses et salvatrices de notre condition ? Serait-ce par la folie que l'on arrive à la sagesse ? Lear, nous dit Michael Edwards, après l'acte fou de livrer son royaume, tombe dans la vraie folie, mais, fou allié, il voit clair. La déraison révèle comme l'ébranlement d'Hamlet, le déraisonnable, l'injustice, l'avarice, l'hypocrisie, ce qu'il appelle le péché. Pour Michael Edwards, le théâtre de Shakespeare entraîne le spectateur dans toute la gamme de la folie, de la clownerie, de l'altérité. Il l'oblige à rencontrer des formes de pensée marginales et pourtant fondamentales et éclairantes.
Merci beaucoup Valérie Toragnan. Tout cela et bien plus, c'est dans la Revue des Deux Mondes. Première émission vernienne aujourd'hui dans la compagnie des auteurs avec, comme chaque lundi, le panorama biographique. Je reçois la conservatrice de la maison Jules Verne de Nantes, le musée Jules Verne. Elle s'appelle Agnès Marcetto-Paul. Et nous ouvrons cette seconde partie par un détour du côté de l'écrivain Michel Butor.
Ce moment de la découverte qu'on trouve vraiment, on peut dire, dans tous les romans de Jules Verne, il y a un moment où un personnage arrive et après un certain nombre d'épreuves, il s'installe dans un point de vue, dans un endroit d'où l'on peut découvrir quelque chose, où un certain voile sur le monde se dissipe. C'est le hublot du sous-marin. Alors, il y a toutes sortes de hublots, et ces hublots peuvent provoquer des machines extraordinaires, soit celles de Robur le Conquérant, ou bien tout simplement, ce sont des aventures assez simplettes, enfin celles de Kéraban le Têtu, par exemple, mais au fond, il y a le même hublot. Je crois que cette idée de hublot est une idée tout à fait importante parce que cela relie très bien ces deux thèmes de la découverte. Le hublot, c'est ce par l'intermédiaire de quoi on va découvrir, le monde va se dévoiler, ce qu'on savait en principe du pôle, parce que chez Jules Verne, il n'y a pas de découverte absolue. Hein, la qualité pédagogique fait que on ne peut montrer que ce qui est en principe déjà connu. Mais on va le montrer d'une façon, avec une présence là qu'aucun savant n'était capable d'imaginer.
C'est un homme de la vision, Jules Verne, Agnès Marcetto-Paul, comme le dit Michel Butor dans cette archive.
Et puis un homme du regard. Et donc en fait, il regarde le monde à la fois parce qu'il le trouve beau à regarder et en même temps, il le regarde parce qu'il pense qu'il faut le considérer. Voilà. Donc en fait,
c'est faire attention.
Voilà. Et s'interroger. Et donc ce sont ces trois caractéristiques qui font l'intérêt des romans de Jules Verne, puisqu'il nous invite à la contemplation, il nous invite à la réflexion et il nous invite en plus à l'interrogation.
Donc l'analogie avec Cousteau n'est pas totalement fantaisiste ?
Ah non, pas du tout, bien sûr. Jules Verne, il est aussi, sinon l'inspirateur, du moins l'ancêtre de toute une lignée de découvreurs, bien entendu.
Alors reprenons la chronologie. En 1864, Paris au XXe siècle est donc mis de côté. Mais paraît, cette année-là, et c'est le total inverse, ce qui sera le premier chef-d'œuvre véritablement de Jules Verne, c'est Voyage au centre de la Terre.
Absolument. Donc faisant suite à 5 semaines en ballon, c'est un des romans fondateurs, un des romans d'ailleurs sans doute les plus fantastiques de Jules Verne, puisque dès l'origine, il s'autorise une incursion dans presque de la science-fiction, puisque autant on peut dire que les romans de Jules Verne en général se passent dans des mondes sinon connu, du moins qu'il est possible de découvrir, le voyage au centre de la Terre, c'est évidemment un grand plongeon dans l'inconnu.
Et là, le style et la construction aussi est déjà extrêmement maîtrisé. On a l'impression d'un écrivain totalement accompli. Bon, il faut dire qu'il a 36 ans, il n'est plus
et qu'il s'était beaucoup essayé à l'écriture avant de trouver un moyen d'être publié, ou en tout cas d'être publié comme un romancier. Mais déjà dans 5 semaines en ballon, qui n'est pas aussi achevé que Voyage au centre de la Terre, il y a cette maîtrise de la construction et des différents ingrédients du roman. Ce qui fait sans doute la particularité du voyage au centre de la Terre, c'est que Jules Verne a réussi à entremêler une mission didactique qui lui était confiée et puis des dimensions oniriques très, très importantes.
En fait, il ne rechigne pas à prendre à son compte les injonctions de Hetzel de ce point de vue-là, ou est-ce que il le fait un petit peu bon an mal an?
Alors, je crois qu'il ne rechigne pas pour deux raisons. D'abord parce que sa posture n'était pas de rechigner par rapport à la commande hetzelienne, mais aussi parce qu'il est sincèrement intéressé par la posture didactique. Il est quand même un homme du milieu du 19e siècle et il a vis-à-vis de cette mission pédagogique, un grand enthousiasme. Il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Lui aussi, il est content de découvrir et d'explorer. Donc il n'y a pas d'antinomie. Ce qu'il y a, c'est qu'il investit cette matière pour y faire passer sa sensibilité artistique. Et dans certains cas, c'est le cas dans Le Voyage au centre de la Terre, ce qu'on peut un peu qualifier de grain de folie. Puisqu'en fait, il le dit, je suis un artiste, je m'affole pour une idée. Et donc lui, évidemment, son véritable dessin, c'est un dessin artistique. Mais les deux choses ne sont pas du tout antinomiques.
Et puis l'envie de transmettre aussi
existe, absolument. Voilà, donc en fait, il s'est parfaitement investi dans la mission qui lui a été confiée, à la fois dans cette mission et dans ce qu'elle lui permettait d'exprimer.
Et cela malgré des contrats plutôt léonins, en tout cas, alors, son désavantage.
Oui, ce sont des contrats léonins, mais c'est toujours pareil, il faut le replacer dans le contexte, et puis il faut rappeler que si les contrats peuvent paraître léonins au début, ils sont rassurants par la suite, parce que quand les tirages et le succès faiblissent, ça lui assure des revenus réguliers et donc un confort d'écriture.
En tous les cas, à partir de ce voyage au centre de la Terre, on peut dire que le succès va aller toujours croissant et ne plus jamais se démentir.
La notoriété et en tout cas la célébrité ne vont pas se démentir, d'autant plus que à partir du milieu des années 1870, il y aura les adaptations au théâtre qui vont donner encore un succès supplémentaire. Et puis, très très vite, il va être traduit pratiquement dans le monde entier. Voilà. Le succès en lui-même, si on considère les chiffres des tirages, on doit quand même constater que les gros tirages, c'est au début.
En 1867, il fait un séjour aux États-Unis avec son frère Paul et ça pose la question des voyages de Jules Verne qui en parle sans cesse. On l'évoquera encore plus dans l'émission de demain. A-t-il beaucoup voyagé lui-même ?
Alors, la légende veut qu'il n'ait voyagé qu'en chambre, ce qui est inexact puisque pour un homme de son époque, il a relativement voyagé. Donc, dès sa jeunesse, il a donc effectué plusieurs voyages, voyage en Angleterre, voyage aux États-Unis, et puis ensuite, en 1861, le voyage en Scandinavie. Et puis, à partir du moment où les revenus de la littérature le lui ont permis, il a été lui-même le propriétaire de trois bateaux. Et ces bateaux-là avaient évidemment comme fonction de lui permettre de voyager.
Donc, en 1967, c'est les États-Unis. Il va à New York.
Oui.
Il visite les chutes du Niagara. Et il y va sur un immense bateau, dit-on, un navire titan qui s'appelle le Great Eastern.
Absolument. Qui a même eu deux noms successifs, et le premier nom était encore plus évocateur, puisque c'était le Léviathan. Et donc cet immense bateau, c'est un bateau mythique du 19e siècle, qui a été construit à la fois pour des transports de passagers, c'est le cas quand Jules Verne l'emprunte, mais aussi pour la pose du câble transatlantique. Donc on est vraiment au cœur des problématiques verniennes.
C'est une ville flottante.
C'est une ville flottante, c'est ainsi qu'il le décrit, et dans ce roman, il décrit à la fois...
Le roman qui s'appelle du coup La Ville Flottante.
La Ville Flottante, il décrit à la fois cet immense bateau, et donc il a ce talent de rendre le gigantisme et la technicité du bateau, mais autre aspect tout aussi intéressant du roman, il décrit la société à bord du bateau. Et c'est là qu'on voit que, contrairement à une idée également reçue, il y a une dimension sociologique dans les romans de Jules Verne.
Il étudie beaucoup les personnes qui sont sur ce bateau-là. Oui. Pendant qu'il fait la traversée, il s'en inspire.
Tout à fait. Là, il les présente avec leurs caractéristiques, souvent avec leurs travers, parce que comme Jules Verne était un homme profondément ironique, il ne se privait jamais de décrire les gens de manière assez caustique.
Par exemple, vous avez un exemple en tête ?
Alors, ai-je un exemple en tête ? Il y en a beaucoup. Mais sur ce bateau, en fait, il décrit avec une certaine férocité ce qu'est cette société anglo-saxonne, à laquelle il voit beaucoup de travers, avec en particulier ce qui commençait à exister à l'époque, c'est-à-dire ces Yankees que leur fortune avait assis et dont ils n'appréciaient pas forcément les manières.
Et pourtant, il adorait les États-Unis.
Il aimait beaucoup les États-Unis, il aimait à la fois la majesté des paysages, et aussi il pensait que c'était un peuple d'entrepreneurs, mais il voit aussi leur travers.
Paraît en feuilleton, le tour du monde en 80 jours, immense succès en France et à l'étranger. Plus tard, c'est Hector Servadac. Quels sont les jalons importants à partir de là, de la vie de Jules Verne en termes littéraires ?
Alors, il y a un jalon essentiel qui est l'île mystérieuse. On considère à juste raison comme un des sommets de l'œuvre.
Pourquoi ?
Alors c'est un achèvement pour Jules Verne. Ça va lui permettre de donner une fin au capitaine Nemo. C'est important. Et puis aussi c'est la Robinsonnade réalisée. Voilà, il cherchait. Depuis l'enfance, il était un lecteur passionné des aventures de Robinson en tout genre. Et lui-même, il voulait écrire une grande Robinsonnade. Il fait plusieurs essais qui n'aboutissent pas. L'île mystérieuse, c'est la Robinsonnade réalisée. Donc c'est vraiment le sommet de l'œuvre.
Et ces essais-là, vous avez pu les consulter ? Vous savez pourquoi ils n'ont pas abouti ?
Oui, ce sont des essais qui sont très connus, puisque c'est un roman qui s'appelle L'oncle Robinson, qui est resté donc inédit du vivant de Jules Verne, parce que Hetzel avait souligné à juste titre que ça n'était pas publiable en l'état. Et c'est véritablement l'avant-texte de l'île mystérieuse. Aujourd'hui, tout le monde peut le lire. Il a été publié il y a une vingtaine d'années à peu près.
C'est votre roman préféré ?
L'île mystérieuse ? Non, pas du tout. Mon roman préféré, c'est vraiment Le tour du monde en 80 jours, que je considère, alors là, comme une réussite parfaite. L'île mystérieuse, c'est un sommet, parce que Jules Verne mène à bien toute une série de projets, mais c'est un roman où on retrouve ce qui, pour moi, constitue un des défauts de Jules Verne, c'est extrêmement long.
Trop long.
Pour moi, L'île mystérieuse, oui.
Ah bah donc on avait raison alors de couper dans le texte.
Non, on n'avait pas raison parce qu'en plus on coupait fort mal, c'est-à-dire qu'on faisait on ne faisait pas un digest, on faisait des coupures, donc on trahissait.
Vous avez rédigé la préface, Agnès Marcetto-Paul, d'un autre roman bien connu de Jules Verne, c'est Le Capitaine de 15 ans.
Oui, parce que lorsqu'en 2005, un certain nombre de romans ont été réédités par Actes Sud, il y avait le Capitaine de 15 ans, qui bien sûr est un roman important. C'est le roman dans lequel Jules Verne parle de la traite, ce qui est forcément un sujet important. Et puis aussi parce que c'est un très très beau roman de formation à une époque où les relations avec son fils Michel étaient particulièrement tendues. Donc Jules Verne s'est créé un fils de papier aussi idéal que Michel ne l'était pas.
Parce qu'en 1878, il a fait embarquer son fils vers les Indes pour redresser son caractère.
Et oui, par voie de correction paternelle, ce qui est quand même tout à fait terrible. Oui, c'est les années les plus terribles dans la relation avec Michel.
Ça en dit beaucoup quand même sur la personnalité de Jules Verne, qui était peut-être un petit peu acariâtre, ou en tout cas difficile.
Il était certainement tout à fait hypochondriaque, ou en tout cas la vie l'avait rendu tel. Et puis de toute façon, il n'était intéressé que par son œuvre. Donc il était, je pense, surtout extrêmement difficile à vivre pour sa famille. Il a été un mauvais père, pour dire les choses rapidement.
1886, c'est l'annus horribilis, c'est l'année pivot de la vie de Jules Verne.
Oui, il dit qu'il est entré à partir de ce moment-là dans la période noire de sa vie. Donc effectivement, il y a beaucoup d'événements. Donc les relations avec Michel ne se sont guère améliorées. En tout cas, Michel continue à faire suffisamment de dettes pour que son père ait des difficultés financières. Il va perdre Hetzel, qui était donc pour lui un second père. Il va perdre sa mère en 1887. Et puis, en plus, son neveu Gaston lui tire une balle de revolver dans le pied.
En plus, qui... comme si c'était quelque chose de normal. C'est quand même incroyable.
Mais non, c'est un signe de plus des malaises qu'il y avait très certainement dans cette famille.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce neveu arrive de Paris avec un revolver, donc c'était quand même prémédité, et puis il tire dans le pied de son oncle?
Alors d'abord, ça n'a jamais été totalement élucidé, parce que la famille s'est bien entendu empressée de mettre le boisseau sur l'événement. Donc on interprète en fonction de ce que l'on sait. On pense en fait que Gaston, qui avait fait en particulier la grande croisière triomphale de 1884 avec son oncle, devait, comme d'autres membres de la famille, être relativement excédé par la gloire du grand homme. Le grand homme ne devait pas être particulièrement agréable avec sa famille, et on pense qu'en plus, Gaston a dû demander de l'argent à Jules Verne, qui n'appréciait pas la chose, d'autant plus que Michel, de son côté, lui coûtait fort cher à ce moment-là. En fait, c'est tout à fait... c'est tout à fait littéraire, mais peut-être pas à la hauteur du grand homme.
Mais c'est tout de même assez tragique, parce qu'il voulait assassiner son oncle.
Non, je ne crois pas, il a tiré dans le pied. Non, je ne pense pas qu'il voulait l'assassiner, mais il avait une agressivité, effectivement, qui avait besoin de s'exprimer.
Toujours est-il que ça va marquer, évidemment, très profondément et physiquement, les dernières années de Jules Verne, qui seront d'autant plus difficiles.
Oui, qui seront effectivement pendant 20 ans une fin de vie peu joyeuse, dirons-nous. Alors d'abord, plus de voyages, et puis d'autre part, une vie un peu routinière. Encore des bons romans, mais évidemment pas les accomplissements des premières années.
Beaucoup quand même de romans, y compris même jusqu'après sa mort, puisqu'il en avait tellement écrit qu'il en restait... plusieurs, oui, qui n'avaient pas été publiés au moment où il meurt, le 24 mars 1905.
Absolument, et donc c'est Michel qui va prendre le relais, puisque Jules Verne était mort, mais le filon Jules Verne, lui, n'était pas éteint. Et donc la maison Hetzel souhaitait pouvoir publier jusqu'à la fin les textes sous la signature de Jules Verne, quelles qu'aient été les interventions de Michel sur les textes en question.
Finalement, quand vous regardez cette vie, Agnès Marcetopol, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que c'est une bonne vie?
Bon, d'abord, je pense qu'il a quand même mené à bien sa passion littéraire. Donc, de ce point de vue, c'est relativement réussi. Et puis, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, lecteurs, c'est une vie qui valait la peine d'être vécue, puisque l'œuvre qui nous a été transmise Et je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, une œuvre majeure.
Et ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent venir vous voir à Nantes?
Absolument, avec grand plaisir.
Vous les accueillerez. Merci beaucoup Agnès Marcetopol. Holy, holy, holy. Bientôt 15h55 sur France Culture, c'est le moment où il arrive chaque jour pour nous enchanter. C'est Jacques Bonnaffé qui lit la poésie dans la compagnie des auteurs. Toute cette semaine, il a choisi des textes de l'Irlandaise Evan Boland et de son recueil Une femme sans pays.
Bonjour, cette semaine nous la passons avec Evan Boland, poétesse irlandaise, on peut dire grande poétesse irlandaise, traduite par Martine de Clercq et dont le livre « Une femme sans pays », qui a rencontré un certain succès, est publié au Castor Astral, Inuit Castor Astral. Laissons-la se décrire par elle-même dans « Les femmes ». C'est l'heure que je préfère, l'entre-deux, l'heure du soir entre chien et loup. Dans le jardin, l'air est couleur thé, l'églantier crêpe de Chine étalé. C'est le moment le plus propice à mon travail. Je monte l'escalier indécise, l'esprit ici et ailleurs, portant tissu ouvert, oubliant quelque chose, en apportant une autre que j'aurais dû laisser derrière moi. L'heure du changement, de la métamorphose, des formes instables et changeantes. L'heure pour moi du sixième sens, de la seconde vue, lorsque dans les mots que je choisis, les vers que j'écris se dressent devant moi telles des visions. Les femmes laborieuses, oisives, nocturnes, vêtues de soie gris fonte, de dentelle ou nues, avec des aiguilles brodées, des livres, jambes écartées, qui ont fui le souffle chaud du dieu qui les pourchassait, son sabot fourchu et sa bouche lipue, dont les chutes, chagrins et guérisons sont passées dans les mythes et jusqu'en moi, le soir, à mon bureau. Un chagrin habitable. Il y a bien longtemps, je fus enfant dans un pays étrange, irlandaise en Angleterre. J'y appris une seconde langue qui m'a été d'un grand secours, la lingua franca d'un pays perdu, un dialecte dans lequel ce qui n'avait jamais existé se trouvait quand même. Cet horizon infini, toujours lointain et impossible, cette passion contrariée d'être entier, voici ce qu'est la langue, un chagrin habitable, une tournure de discours servant à l'abrasion journalière et ordinaire des pertes de ce genre qui fait juste assez mal pour cicatriser et guérit suffisamment pour constituer une nation. Voilà qui est bien pensé. Pas censé, c'est pas fait pour expliquer, c'est fait pour réparer les mots, réparer la vie des vivants. Mère Irlande. D'abord, je fus terre. Je m'étendis sur le dos pour me faire champ. Puis, lorsque je me tournai sur le côté, je me fis colline sous les étoiles glacées. Je ne voyais pas, j'étais vu. Nuit et jour, les mots tombèrent sur moi. Graines, gouttes de pluie, éclats de gel. C'est de l'un d'eux que j'appris mon nom, Irlande. Je me relevai. Le retint. À présent, je pouvais raconter mon histoire. Elle différait de celle qu'on racontait sur moi. Et alors aussi, ce fut le printemps, je vis la plaie que j'avais laissée dans la terre en la quittant. Je voyageais vers l'ouest. Une fois arrivé, je regardais avec tant d'amour chaque champ déplié, sa roue rouillée et le châssis de son landau, ainsi que les lointains aux genêts éclatants que j'avais parcourus, qu'ils se méprirent. « Reviens vers nous, » dirent-ils. « Comptez sur moi », ai-je murmuré. Eva Boland, qui enseigne aux États-Unis.
Laissez-moi vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
C'était Jacques Bonafé qui lisait des extraits du recueil d'Ivan Boland, Une femme sans pays, dans la compagnie des auteurs.d'orgue, à une émission consacrée aujourd'hui au grand écrivain Jules Verne, qu'on relie avec toujours autant de passion, et cela, évidemment, quel que soit l'âge. On va continuer d'en parler jusqu'à jeudi, et dès demain, on entre dans le dur, si l'on peut dire, avec les voyages de Jules Verne, autant dire le centre de son œuvre. On en parlera avec Jean-Luc Steinmetz. D'ici là, n'oubliez pas le podcast, toutes nos émissions restent disponibles. N'hésitez pas à farfouiller également dans les anciennes émissions. Et puis je signale le livre Jules Verne inconnu par Samuel Sadone avec une préface de mon invité d'aujourd'hui que je remercie, Agnès Marcetopol, c'est aux éditions La Guidouille. La compagnie des auteurs est une émission conduite par tout un équipage, Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Sophie de Lombarès. La réalisation aujourd'hui, c'était Anna El-Fakir, à la console Jean-Guilain Meige. Dans un instant, Continent Science, Stéphane Delis-Georges.
Mais ce qui est certain, c'est que tous les gens qui continuent à mourir et à crever, c'est à cause et uniquement la faute de Monsieur Jules Verne.